Je suis en compagnie de Jean-Noël Rangot. Bonjour. Nous parlons de ton nouveau roman paru dans cette rentrée littéraire de septembre aux éditions Grasset. Il s'appelle Les Jungles Rouges. Il commence à Phnom Penh en mars 1924 et nous y rencontrons André Malraux et Clara Malraux, sa femme.
Bonjour. Alors oui, le livre commence en 1924 à Phnom Penh avec un couple de jeunes Français maintenus en résidence surveillée parce qu'ils ont été convaincus du vol de statues appartenant à un temple d'Angkor. Et donc ils sont maintenus en résidence surveillée. Ce couple, c'est André et Clara Malraux. C'est une histoire vraie. C'est une histoire qui appartient à la légende de Malraux, du couple Malraux. Et je suis parti de là parce qu'en fait, les biographes retiennent qu'ils avaient un boy qui s'appelait Xa. Ça tient en quelques lignes. Et moi, je suis parti de cette histoire-là, de cette histoire de Xa. J'ai plutôt imaginé une histoire autour de cet homme que l'on ne connaît pas. Et j'ai imaginé qu'il ait une filiation. Et c'est à partir de là que vont se succéder toutes sortes de périodes jusqu'en 2016. Mais là, on est en 1924, les Malraux sont donc en résidence surveillée, ils connaissent un sentiment de déclassement, d'humiliation, et je les ai imaginés dans cette chambre où ils étaient là pendant plusieurs mois, à l'hôtel Manolis, un bel hôtel de la ville d'ailleurs à l'époque. C'était une prison dorée. Ils passaient leur temps à se souvenir des poésies qu'ils connaissaient. Clara Malraux était opiumane, donc elle fume l'opium. Et puis, il y a, à un moment donné, j'ai imaginé que André Malraux lui parle d'un poème qui s'appelle Comme vous, mais pas tout à fait comme vous, qui est un poème inventé pour le coup. Et j'ai imaginé que l'auteur était d'ailleurs anonyme, qu'il s'appelait Khmer Daum. Khmer Daum, ça veut dire en khmer, c'est khmer primitif, khmer premier. Et il se trouve que c'est la signature qu'utilisait en France Pol Pot pour ses premiers papiers dans une revue qui s'appelle Khemra Nissut. Et tout ça, on va le retrouver dans une autre période, dans le livre en 1950. Mais ça, c'est plus tard.
Donc, ton commencement serait cette note, ou ces quelques lignes que tu as trouvées dans les biographies d'André Malraux, qui est ce personnage, Xa, qui est donc leur boy quand ils étaient à Phnom Penh. Et à partir de là, tu vas pouvoir nous dérouler une histoire qui va se dérouler sur deux lieux, à la fois au Cambodge et à la fois à Paris.
Alors ça, c'est effectivement donc la première partie qui regroupe deux périodes. Donc la période 1924-25 avec les Malraux au Cambodge, donc d'abord cet enfermement, et puis ensuite on les retrouve avec Xa qui va les initier à la condition des colonisés. En fait, à travers son regard, les Malraux vont découvrir et leur propre sentiment de déclassement, ils vont s'identifier à ces colonisés, ces Indochinois. L'Indochine ne voulant pas dire grand-chose, c'est une création coloniale. L'Indochine, ça regroupe le protectorat du Cambodge, ça regroupe les colonies de Cochinchine, d'Annam, le Tonkin, le Laos. Mais Xa va véritablement leur faire découvrir cette condition-là. Et avec lui, ils vont fonder des journaux qui ont existé, hein, qui s'appelaient l'Indochine et l'Indochine enchaînée. Alors, le domaine de la réalité, le domaine de la fiction, tout de suite, pour répondre à une question qui va se poser tout au long du récit, c'est que l'histoire est vraie, mais l'histoire de Xa est inventée. Donc en fait, l'histoire de l'Indochine enchaînée, les Malraux qui participent à cette aventure éditoriale, ça a existé. Xa, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait après 1924. Là, j'ai imaginé que c'est par lui que ça passe, cette aventure des Malraux là-bas, cette prise de conscience plus exactement, et surtout qu'il va jouer un rôle, lui, dans la fondation de ces quotidiens. Et puis on passe en 1950, ce sont des chapitres alternés, hein, où on alterne les deux périodes, et là en 1950, on est à Paris, c'est toujours la capitale de l'Empire colonial, Paris, et on est avec un jeune étudiant, deux jeunes étudiants, l'un s'appelle Salot Sor et l'autre s'appelle Xaprasit. Salot Sor, c'est le futur Pol Pot. Xaprasit, on dit dans le livre que c'est le protégé d'un homme célèbre, parce qu'on est en 1950. grand écrivain de la condition humaine et de l'espoir, et donc de la révolution, de la guerre d'Espagne, et aussi un des membres de la résistance, un gaulliste. Et cet homme, ça s'appelle André Malraux. André Malraux est devenu célèbre. Et là, j'ai imaginé que il protégeait un jeune homme d'à peine 20 ans qui s'appelle Xaprasit et qui serait le fils du boy que lui avait eu justement en 1924-25. Et boy qui est devenu un intellectuel et surtout un combattant anticolonial. Et donc il y a ce va-et-vient entre ces deux périodes et entre ce père et ce fils à travers le Cambodge et Paris. Et Paris, donc, c'est la reconstitution du Paris 1950, le Paris des étudiants venant d'un peu partout, venant d'Asie, venant d'Afrique, en fait de l'Empire colonial français, et qui se mêle aux intellectuels communistes. C'est la rive gauche, une rive gauche qu'on ne connaît plus, une rive gauche qui est marquée par, qui a été décrite par les situationnistes. Notamment, c'est-à-dire pas mal de cafés, pas mal de taudis, pas mal de pas du tout le Saint-Germain d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus pauvre, c'était beaucoup plus rustique aussi. Et donc c'est ça que j'ai reconstitué, c'est ce Paris des groupes d'étudiants révolutionnaires, des groupes d'associations d'étudiants vietnamiens, d'étudiants cambodgiens. Et on suit Xaprasit et on suit Salot Sor dans leur pérégrination parisienne, dans leur rencontre. Il y a notamment la figure de Jacques Vergès qui est évoquée. Et on voit comment petit à petit ils s'initient au marxisme qui pour eux est très exotique. Salot Sor vient d'une famille paysanne. Il a été lié au palais du roi du Cambodge parce que l'une de ses sœurs était la concubine du roi, du vieux roi en fait. Et donc il fréquentait le palais. Il a ensuite fait des études. Il a reçu une bourse du roi du très jeune roi Sihanouk à l'époque, puisque le vieux roi était mort. Et il est parti étudier à Paris. Et donc il était marqué par le bouddhisme, il était marqué par quelque chose de traditionnel et par un fort sentiment nationaliste cambodgien. Et le marxisme est une délicieuse transgression parce que le marxisme, c'est la fin des castes. Or, le Cambodge est très marqué par la notion de caste. Mais dans sa tête, ça va s'unir à la possibilité de créer quelque chose de nouveau où la nation Khmer pourrait retrouver sa splendeur à travers l'idée de révolution. Pourquoi ? Parce que petit à petit, tous ces étudiants, il n'est pas le seul évidemment, il y en avait d'autres, hein, Khieu Samphon notamment, Keng Van Sak qui lui n'est pas devenu Khmer Rouge, mais tous ces jeunes gens vont considérer que la monarchie a trahi la nation cambodgienne en étant alliée aux Français. Le Cambodge n'est pas une colonie, c'est un protectorat, c'est pas la même chose, mais néanmoins la présence française est très forte. Et donc, il y a cette prise de conscience que la monarchie, qu'ils vénèrent par ailleurs, a trahi. Et eux, petit à petit, vont intégrer le marxisme comme élément fondateur d'une révolution de libération capable de restaurer la nation Khmer. C'est ça qui est spécifique aux révolutions anticoloniales, aux mouvements de libération décolonisés souvent, c'est que le marxisme est un outil, ou plutôt la révolution est un outil, mais ce n'est pas forcément un absolu. C'est d'abord la restauration d'une nation qui a été rayée de la carte, soit qui a été rayée de la carte, en tout cas qui a été humiliée par des envahisseurs, les colons, les pays colonisateurs. Mais là aussi, c'est complexe, cette affaire-là, parce que la haine pour l'occupant, parfois, est moins forte que les haines ancestrales entre des nations limitrophes. Et c'est le cas, par exemple, en Asie du Sud-Est, entre les Cambodgiens et les Vietnamiens, où il y a une haine ancestrale, comme il y a pu y avoir une haine entre Français, Anglais et Allemands. C'est-à-dire que c'est lié à l'empire d'Annam qui a envahi le royaume d'Angkor, qui a lui-même envahi des royaumes Thaï et vice-versa, etc. Il y a des rivalités régionales très fortes. Et la couche coloniale est venue là-dessus en créant une unité. On avait l'impression que ils étaient tous unis pendant les guerres du Vietnam, notamment le Cambodge, le Vietnam, etc. C'était vrai, mais en même temps, c'était très fragile comme union. Et donc, ce Paris des années 50, j'ai essayé de restituer cette atmosphère-là, cette atmosphère d'union et de suspicion, notamment dans la relation avec Jacques Vergès dans La mer est vietnamienne, qui lui est un vrai communiste à l'époque, mais qui est perçu par Salot Sor et Xaprasit comme quelqu'un dont on doit se méfier parce qu'il n'est pas cambodgien.
Je me suis posé la question sur pourquoi tu as utilisé la figure d'André Malraux, parce que c'est à travers cette figure d'André Malraux qui est ce point de départ, et puis en filigrane on a sa vie, notamment son aspect de mythomane, quelqu'un qui croit aussi à ses fictions, qui s'invente un personnage, notamment d'aventurier, et du portrait que tu dresses d'André Malraux, je m'étais dit qu'il avait de quoi te fasciner, déjà parce qu'il a vécu au Cambodge, et puis par ce personnage pas vraiment que tu inventes Xa, mais que tu vas grossir, et puis tu vas inventer des aventures de son fils, Prasit, et la descendance encore. Eh bien, tu fais démarrer tout ça par la figure d'André Malraux. Je vais te lire, et c'est peut-être là où j'ai pensé, où j'ai peut-être cru, que la figure d'André Malraux, tu pouvais en faire sorte de figure paternelle pour ta propre inclination à la fiction qui pourrait se passer hors d'Europe, qui serait donc un intérêt qui nous sort de cette emprise de pensée, de culture européenne. Je te lis. Un jour d'août 1926, la tentation de l'Occident parut et la presse fut élogieuse. On compara son jeune auteur au philosophe à la mode, le comte Kesselring, dont le journal de voyage autour du monde faisait un tabac, et surtout l'éloge de l'Orient et des Indes, toutes les Indes. André, plus énigmatique, suggéra dans une interview à propos de son ouvrage, où dialoguait par correspondance un Chinois fasciné par l'Occident et un Européen fasciné par l'Asie, que la jeunesse blanche n'avait qu'une obsession, se délivrer de sa propre civilisation, et que sans doute cela vaudrait dans l'autre sens pour toutes les jeunesses de toutes les couleurs s'il n'existait la présence coloniale, et qu'un jour peut-être il faudrait partir de cette dialectique-là, de ces peaux qui se séduisent, se hantent et se repoussent, une politique esthétique peut-être. À la fois il y a cette jeunesse blanche qui n'avait qu'une obsession, se délivrer de sa propre civilisation, et aussi cette idée de politique esthétique.
Alors oui, ça c'est des propos que j'invente, que je prête à Malraux, mais en même temps je les tire un peu de la tentation de l'Occident. Écoute, la figure de Malraux, elle est très importante pour moi, et en même temps c'est pas celle qui me fascine le plus. Je suis plus fasciné par la figure de Clara Malraux, et encore bien plus fasciné par la figure de Xa, qui encore une fois ne tient qu'en quelques lignes. Malraux, j'ai envie de dire, c'est une étape obligée, c'est le mythe, c'est la légende de cet homme qui part, et dans la longue qui part donc en Indochine, mais dans la longue histoire de ces occidentaux, de ces blancs qui vont ailleurs, ce qu'ils appellent l'ailleurs, évidemment qu'il est presque incontournable. Maintenant, je t'avoue que des histoires comme ça, moi j'en connais des centaines. Et à la base, le livre devait s'appeler plutôt Indochina et faisait à peu près 1500 pages, mais c'était déjà très difficile à publier comme ça. Et puis il a fallu faire un choix. Et ce choix, encore une fois, dans la biographie de Malraux, c'est ces quelques lignes autour de Xa qui ont décidé du choix de Malraux. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il y a Malraux. Et en fait, dans l'aventure de Malraux, ce qui m'intéresse, c'est sa partie anticoloniale, c'est-à-dire la partie où il participe à des journaux anticoloniaux. C'est ces Blancs qui luttent contre leur propre nation au nom d'un certain nombre de principes. Figures aujourd'hui qui sont très connues, qui sont prisées et parfois même critiquées, puisqu'on est dans une période post-coloniale, on le verra plus tard. Parce que tout ça est mêlé pour moi, et c'est la dimension, j'ai envie de dire, politique, pas engagée, parce que moi je ne crois pas à l'engagement, pour moi l'écriture est un engagement, mais la littérature engagée me semble-t-il ça ne marche pas. C'est-à-dire que on passe dans un message, et le message amoindrit la forme de la littérature. On quitte la puissance de la littérature et la complexité de restitution de ces personnages pour une vision assez biaisée. Et donc, voilà. Mais en tout cas, voilà pour André Malraux. Alors oui, c'est dans La Tentation de l'Occident, il montre un occidental qui est fasciné par l'Orient, comme il y en a eu d'autres, comme il y en aura beaucoup, plusieurs. Et c'est vrai que ça va être un refrain. C'est un refrain ambigu dans le roman. Et ce poème dont je parlais au début, comme vous, mais pas tout à fait comme vous, qui est un poème anonyme d'environ 20 000 vers et qui met en scène une voix féminine qui raconte un petit peu à la fois sa colère, sa haine et son amour des Blancs, ça symbolise pour moi ce rapport que nous avons et que nous avons encore entre les anciens colonisés, les anciens colonisateurs. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui de cette mémoire-là? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces récits-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces histoires-là? C'est ça le projet, moi, qui m'intéressait dans Les Jungles Rouges et qui aujourd'hui me guide. Alors j'en parle maintenant, mais j'en reparlerai encore après. À la fin du livre, dans la dernière partie, le personnage qui s'appelle Jean Douchy, on dit de lui qu'il est historiophile. Pour moi, c'est avec Karmastan, qui est un autre nom, les noms le plus important du livre. Historiophile, ça vient, évidemment, c'est comme cinéphile, l'amour du cinéma. Là, c'est l'amour des histoires. C'est vrai que moi, j'aime ces histoires-là. J'ai aimé l'histoire de ces Blancs en Indochine. J'ai aimé l'histoire de ces Cambodgiens, de ces Vietnamiens à Paris. J'ai aimé l'histoire, on verra plus tard, de Catherine Leroy, la photographe française qui photographie pour la première fois des Viet Cong et des membres de l'armée de Nord-Vietnam lors de l'offensive du Tet à Hue en 68. J'ai aimé les photographes Sean Flynn et Gilles Caron, faits prisonniers en 70, capturés par les Khmers Rouges et disparus depuis, donc exécutés par les Khmers Rouges. J'ai aimé... tout en étant terrifié, j'ai été là pour le coup fasciné, c'est plutôt le mot exact, par la chute de Phnom Penh et ces quelques semaines à l'ambassade de France, et puis cette atmosphère de ville, de ville qui tombe. Il se trouve que personnellement j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont connu cette période-là, à la fois là-bas et maintenant ici, puisqu'ils sont partis. Des familles comme ça qui sont parties, ce qu'on appelait les boat people, c'est ce qui a marqué mon enfance, les boat people à l'école. Et donc, tout ça, toutes ces histoires-là, il a fallu que j'en fasse un choix, parce que j'aurais pu en écrire beaucoup en un seul livre, et en fait, j'ai plutôt tendance là maintenant à faire les choses en plusieurs livres. Et donc j'ai fait ce choix, encore une fois guidé par Xa, dont le fils, Xa Praside, va devenir la figure centrale, des autres récits, mais même s'il apparaît pas forcément comme le personnage principal, mais il va devenir le fil conducteur. Ce Xa, ce fils de ce boy, va devenir le fil conducteur, et c'est ce qui a présidé au choix de Malraux.
Alors parlons de Jean Douchy, parce qu'effectivement Jean Douchy, je me suis aperçu que ça pouvait être lui pour le coup une figure non plus tutélaire, mais une sorte de double de toi, Jean-Noël. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu en tant que lecteur. Parlons un petit peu de comment il arrive, ce Jean Douchy. Donc là, on est à l'époque actuelle. Et Jean Douchy va être le petit ami de Fala. Tu parlais de l'épisode de Phnom Penh et de l'ambassade française au moment où les Khmers Rouges vidaient Phnom Penh. Peux-tu nous parler de la manière dont Fala apparaît?
Alors peut-être il faut repréciser l'histoire. Donc Xa Praside étudie en 1950 avec Charlotte Sor à Paris. Il retourne au Cambodge dans les années 60 et ils vont participer à la lutte anticoloniale, d'abord dans les villes et puis ensuite dans les campagnes et ensuite les jungles, en créant un mouvement qui va être appelé par le roi Sihanouk les Red Khmer, les Khmer Rouges. L'histoire va retenir leur nom comme ça. Mais à la base, c'est le Parti communiste du Kampuchea. C'est le mouvement révolutionnaire, hein, l'Angkar. C'est pas les Khmer Rouges. Ils s'appelaient pas forcément comme ça au début. Mais donc, ce Xa Praside donc va suivre cet itinéraire-là. Et puis, au fur et à mesure des années, son amitié avec Charlotte Sor va évoluer. En tout cas, dans le livre, c'est décrit comme ça. Il va se rendre compte que le mouvement est en train de devenir extrêmement meurtrier. Et c'est pas du tout ce à quoi il c'est pas du tout ce qu'il espérait. Et donc dans ce mouvement-là, il occupe un poste important, hein, il est responsable et de la propagande et des services de renseignement, et il est notamment en relation avec les journalistes. Et donc on le retrouve en 68 au moment de l'offensive du Tet, où il est un officier de liaison. La rébellion Khmer Rouge vient de commencer, mais il est associé aux Vietnamiens, il est donc au Vietnam du Sud, où il est là avec des unités de l'armée nord-vietnamienne, et c'est lui qui va permettre à cette figure réelle, qui a vraiment existé, de Catherine Leroy, de photographier pour la première fois les nord-vietnamiens. Et puis, et les Vietcong. Et puis, on le retrouve en 70 avec des Sean Flynn, le photographe Sean Flynn, le fils d'Errol Flynn, qui est photographe de guerre, et Gilles Caron aussi, qui est le fondateur de l'agence Gamma. Il va les retrouver et il va essayer de faire comme ce qu'il avait fait pour Catherine Leroy, c'est-à-dire leur permettre de faire des photos, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, ces photographies humanisaient leur guerre et faisaient que les opinions publiques en Occident basculaient contre les Américains, en fait, puisque là c'est une guerre américaine. Et donc ils tentent de faire la même chose, sauf que le mouvement Khmer Rouge ne fonctionnait pas de la même manière. Et donc Sean Flynn et Gilles Caron ont été exécutés. Moi j'ai imaginé qu'en fait à chaque fois on retrouvait cet officier-là un peu fantomatique, Xaprasit, qui était véritablement celui qui permettait ou ne parvenait pas à faire que, justement, il y a des histoires se passent ou pas, notamment l'histoire de Catherine Leroy et puis celle de Sean Flynn et de Gilles Caron. Et donc l'affaire Sean Flynn fait que ce personnage fictif de Xaprasit va prendre ses distances et puis va déserter. Et l'histoire reprend en 1973 à Bangkok, où là j'ai imaginé un couple, et notamment d'abord, je parle du mari, qui s'appelle Maxime Larochelle, qui est un chercheur à l'école française d'Extrême-Orient, qui est en route pour le Cambodge et qui est en transit à Bangkok, et là où il y a des manifestations étudiantes importantes. Et il rencontre un journaliste thaï qui lui parle du mouvement Khmer Rouge. Il lui dit « Tu vas au Cambodge, fais attention, c'est très dangereux. Le mouvement Khmer Rouge, c'est pas du tout les Vietcong, c'est pas du tout les Nord-Vietnamiens. C'est un mouvement meurtrier, génocidaire. J'ai un informateur là-bas. » Et on devine que l'informateur, c'est ce Xaprasit qui me dit tout ça. Mais personne ne veut l'écouter, tout le monde s'en fout. Et donc, ensuite, on retrouve effectivement Maxime Larochelle et sa femme Marie en 75, donc un an et demi plus tard, à Phnom Penh, au moment de la chute de Phnom Penh. Et là, il y a cet épisode avec Phala. C'est quoi ? C'est que ce couple se retrouve à l'ambassade parce que les Khmer Rouges, au moment de la chute, regroupaient tous les étrangers là-bas. Et il y avait aussi beaucoup de Cambodgiens qui étaient membres de l'ancien régime qui se réfugiaient là. Et ça a été le cas pendant 2 semaines. Et là, j'ai imaginé que ce couple tombe sur un homme farouche, un guerrier manifestement, qui berce une petite fille et qui va leur raconter son histoire. Et là, on a déjà une mise en abîme, une première mise en abîme du livre qu'on vient de lire, en tout cas jusqu'à ce moment-là, où il va raconter, où on voit déjà que la manière dont il raconte, c'est différent de la façon dont je l'ai écrite. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont passées sous silence, puis il y a des choses qui sont révélées, puis voilà. Et donc, il dit qu'il a déserté le mouvement Khmer Rouge, il reprend tout ça, il raconte son histoire à Paris, il raconte qu'il est le fils d'un boy des Malraux, il raconte son histoire avec sa Lhotse Sœur, il raconte son accès à la rébellion Khmer Rouge, son engagement, son rapport à Catherine Leroy, etc. Et puis, sa désertion, et aussi le fait qu'il tombe amoureux, au moment de sa désertion, d'une femme avec qui il va essayer d'alerter les journalistes, mais qui ne s'intéressent pas à ça. Les journalistes sont plutôt intéressés par la dénonciation de la guerre côté américain plutôt que par les exactions Khmer Rouge, qui sont considérées comme de toute façon un mal nécessaire dans un cadre de guerre de libération. Et ils ont une enfant, et cet enfant s'appelle Phala. Et il va dire à ce couple, constatant que la ville va tomber et que de toute façon les Cambodgiens ne s'en sortiront pas, il va les confier cet enfant, et cet enfant, Phala, va être adopté par les Larochelle. Et on retrouve plus tard Phala Larochelle en 3 périodes, en 1980, En Normandie, elle a 5 ans. Cette fois, elle court sur la plage et il y a une femme qui l'observe depuis un bâtiment qui s'appelle Les Roches Noires. Et cette femme, c'est Marguerite Duras. C'est les épisodes qu'elle raconte elle-même, Marguerite Duras, dans l'été 80. Et j'ai imaginé que la petite fille qu'elle voit courir, eh bien, à côté de cette petite fille, il y en a une autre qui est Fala La Rochelle qui court elle aussi. Elle n'est pas dans les colonies, elle est avec ses parents. Et cette petite fille va déclencher la vision de cette petite fille que elle, Marguerite Duras, peut identifier. Elle sait qu'elle est cambodgienne et qu'elle n'est pas vietnamienne. Parce qu'elle a vécu là-bas, parce que c'est une fille des colonies elle aussi, et ça va déclencher l'écriture de l'amant, avec les lettres qu'elle reçoit d'un jeune homme qui s'appelle Yann Lemay, et qu'elle va appeler plus tard Yann Andrea. Donc il y a cette histoire-là qui se greffe là-dessus. Et toi, tu parlais de Jean Douchy. En 96, on retrouve cette Fala La Rochelle. Elle est devenue étudiante aux Beaux-Arts et elle rencontre un jeune mec qui est un jeune poète d'avant-garde qui s'adonne à ce qu'on appelait autrefois l'avant-garde, c'est-à-dire des textes un peu comme ça, expérimentaux. Et qui écrit notamment un énorme poème qui s'appelle « Le jour le plus beau », qui sont toutes les secondes, les minutes et heures de la journée entrecoupées de textes, comme une sorte de grande horloge textuelle qu'il récite, qu'il déclame dans des galeries d'art. Il se rend compte, c'est un amour à moitié partagé, elle est pas si amoureuse que ça alors que lui est épris d'elle. Et c'est là où on voit pour la première fois la figure très importante pour moi plus tard de Jean Douchy, parce que ce personnage va structurer d'autres livres, mais ça c'est une cuisine personnelle, mais c'est vrai que ça va devenir un personnage qui est récurrent dans mes prochains livres. Mais donc ce Jean Douchy, qui est un jeune homme dans les années 90, épris de poésie comme ça, expérimentale, contemporaine, est aussi épris d'histoire d'Asie. Sans doute parce qu'il a été marqué enfant par l'arrivée des boat people à l'école, etc. C'est assez obscur en fait, cette fascination pour l'Asie. Surtout que lui ne vient de nulle part, c'est un garçon de ce qu'on appelle les classes populaires. J'aime pas ce mot parce que je déteste être enfermé dans des cases comme un tableau Excel par la sociologie, mais voilà, c'est quelqu'un qui c'est le premier de sa famille à passer le bac, il fait pas d'études par ailleurs, mais il se considère pas comme un autodidacte non plus, simplement il a cette fascination livresque, picturale, sonore, tout ce que l'on veut pour l'Asie, et spécialement l'Asie du Sud-Est surtout, c'est-à-dire cette Asie qui est inspirée, qui elle-même est née de l'Inde un peu. Et donc ça va de l'Inde à l'Indonésie. Et lui appelle d'ailleurs toute cette région du monde, toute cette partie, le Karmastan, le pays du destin. Le karma ne veut pas forcément dire destin, c'est le pays des actes, de l'action, mais de l'action qui entraîne justement une destinée, nos actes. Et donc ce pays du karma, Stan en persan veut dire pays, donc ce Karmastan, ce pays du karma, c'est cette région qui s'étend de l'Inde jusqu'à l'Indonésie et même au-delà, vers la Polynésie, Tahiti, et puis vers le nord, on dépasse l'Himalaya, ça inclut le Tibet, les Monts Kunlun, et puis plusieurs régions chinoises, Hong Kong, et puis on descend vers l'océan Indien, voilà, et ça s'arrête à l'Australie, ça n'inclut pas l'Australie, mais lui, tout ça, c'est ce pays du karma, qui est donc un pays marqué par la religiosité hindoue, indienne en tout cas. Il a ça en lui. Et ce Jean Douchy, on va le retrouver en 2016 à Bangkok. Cette fois, il a la quarantaine. Et puis, il a quitté Paris. Il a été quitté par Fala. Il est tombé amoureux d'une femme indonésienne. Mais c'est une relation compliquée parce que lui vit maintenant en Asie du Sud-Est à Bangkok et elle vit à Paris. Et il a créé une galerie, librairie d'art, ce qu'on appelle l'art colonial. Mais pas seulement, il y a aussi de l'art contemporain. C'est ça, c'est la part de la fiction qui permet de réunir deux domaines qui sont généralement séparés. Je connais pas de marchands d'art. Je connais des marchands d'art coloniaux, ce qu'on appelle l'art colonial, c'est-à-dire en fait tout cet art qui parle de pour le coup là de l'Asie du Sud-Est, mais ça peut aussi bien parler d'Afrique, etc. Mais là, c'est spécialisé dans l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire en fait tout ce qui du 17e jusqu'au 20e siècle, les dessinateurs, les explorateurs, les botanistes. Les écrivains, les poètes, les peintres, les photographes, tout ce que l'on veut, ont produit toute cette production, même le mobilier, autour de cette région-là. Et puis, ils vont un peu d'art contemporain. Et donc, il est établi à Bangkok, ce Jean Douchy. Et là, l'histoire prend une autre tournure. Parce qu'il est contacté par une femme au Cambodge, suite à la mise en ligne d'un lot de photographies qu'il a acquis plusieurs années avant, mais qu'il n'avait jamais mis en ligne, qu'il n'avait jamais mis dans son catalogue, des photographies, 5 photographies, prises lors de la seule interview que Pol Pot a accordée à une télévision, c'était en 1977, c'était une télévision yougoslave. Et là, J'ai imaginé que l'un des journalistes avait pris des photos en catimini, où on voit Pol Pot, on voit Khieu Samphan, on en voit d'autres, et puis on voit un type qu'on n'identifie pas. Et donc, il les a achetés pour rien, et il les met en vente là, à un prix prohibitif, parce qu'il dit de toute façon personne n'en voudra, et si quelqu'un en veut, ben, au moins il les achètera comme ça. Enfin, il les met. Et il est contacté tout de suite par une femme qui lui dit « Écoutez, moi, je veux ce lot, ça a une valeur sentimentale et je les achète, je ne discute pas le prix. » Il est intrigué, Jean Douchy, il y va. Et là, l'histoire bascule.
Parce qu'il va rencontrer Prasit. Et là, il va être déniaisé. C'est là où cette figure de Jean Douchy est effectivement la figure centrale. Et je comprends pourquoi... Tu vas en faire un personnage récurrent d'autres fictions, parce qu'il est captivant. C'est vraiment le personnage issu de, on va dire, de la culture européenne, mais qui s'est fabriqué par lui-même, parce que en Europe c'est possible aussi de pouvoir, n'importe quel milieu dont on vient, on peut s'élever, pas un bon terme, mais on peut se mettre en culture, on peut se mettre à être créatif. Et c'est son cas à lui, avec cette fascination pour l'Asie du Sud-Est, de ces découvertes qu'il va faire, qui à chaque fois sont aussi des histoires d'amour. Donc il y est pleinement fasciné, et qui va être fabuleusement déniaisé. Et puisqu'on va assister à un dialogue incroyable entre Prasit et Jean Douchy, c'est le déniaisement. Mais c'est le déniaisement à la fois de données historiques, de l'histoire, mais c'est aussi le déniaisement de la capacité à fictionner nos vies, à inventer nos vies. Et c'est pas pour rien qu'il y a bien entendu André Malraux, qui est un mythomane. Mais c'est la part de mythomanie qu'on peut tous avoir. Et Jean Douchy va être déniaisé aussi là-dessus, que les hommes peuvent avoir une part de mythomanie et de faire croire à des histoires. Et assistant à ce dialogue entre Prasit et Jean Douchy, on comprend que l'histoire qui nous a été racontée du Cambodge et de cet épisode terrible qu'on appelle les Khmers Rouges, mais où on comprend à travers ton livre et à travers ta parole, Jean-Noël, que déjà, le terme est impropre. On comprend qu'il s'est passé peut-être aussi une autre histoire que celle qu'on a crue. Qu'on a cru à une histoire du communisme, là où il fallait voir peut-être une autre histoire. Et dans ces cas-là, nous aussi, on est déniaisés à la manière de Jean Douchy.
Alors oui, parce que quand il arrive au Cambodge, en fait, cette femme, il voit cette femme, et cette femme lui rappelle furieusement une jeune femme, enfin c'est une jeune femme d'ailleurs qu'il voit, et cette jeune femme lui rappelle une autre jeune femme qu'il a connue 20 ans auparavant, et il se dit c'est pas possible parce qu'elle lui ressemble, et c'est pas possible. Et cette jeune femme, c'est évidemment Fala La Rochelle. Et là, il va apprendre, alors tu l'as dit effectivement, que cette jeune femme qu'il rencontre est la demi-sœur de Fala La Rochelle, que Xa Prasit, qu'on a quitté en 1975 au moment de la chute de Phnom Penh et qu'on a considéré comme mort parce que il a disparu et on prétend qu'il a été tout de suite il a sauté le mur de l'ambassade et on prétend qu'il a été tout de suite arrêté et mis à mort et qui est resté pour Fala La Rochelle et pour Jean Douchy une figure de fascination, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que Jean Douchy demandait à Fala La Rochelle de lui raconter l'histoire de ce père, ce héros, ce putain de héros, comme il dit dans le livre. Eh bien, en fait, c'est une autre histoire qui s'est passée. Et donc, cette jeune femme va l'emmener chez un homme en disant « Cet homme, c'est mon père. » Et il va rencontrer Xa Prasit, qui n'est pas mort du tout, qui n'était pas du tout un déserteur Khmer Rouge, contrairement à ce que tout le livre prétendait, qu'il était au contraire un membre, mais pas du tout un membre important d'ailleurs, mais un exécutant du service de renseignement des Khmers Rouge, et qu'il a d'ailleurs été l'un de ceux, parce que là je suis parti sur une hypothèse au moment de la chute de Saigon, ce qu'il faut savoir c'est que c'était réfugié en secret d'anciens membres du gouvernement. Et deux jours plus tard, les autorités cambodgiennes, les Khmers Rouges ont intimé l'ordre aux Français de livrer ces gens, sous peine de passer de prendre d'assaut l'ambassade et de tuer tout le monde. Et donc, ils ont été livrés, ces gens-là. aux Khmers rouges. Et on a toujours considéré que soit ils avaient été donnés par la France, ce qui serait terrible, mais aussi, sans doute, il y avait des informateurs au sein même des réfugiés cambodgiens. Donc, j'ai imaginé que c'était lui, un des informateurs. Et que, malgré tout, il avait confié sa fille, parce qu'il était venu là avec cet enfant. Sa femme était morte dans les geôles de l'ancien régime. Il était venu avec sa petite, son nouveau-né, qui avait 6 mois dans le livre, pour passer un peu inaperçu. Et qu'il l'avait fait pour confier cet enfant à des Français. Parce que, après tout, quand même, il considérait que le mouvement Khmer Rouge était en train de devenir quelque chose de dangereux et que de toute façon, son enfant ne survivrait pas à ce qui allait se passer. Et que lui-même ne pourrait pas s'en occuper parce que les Khmer Rouges considéraient l'amour filial comme quelque chose de capitaliste. Et donc, il fallait abolir les familles, il fallait abolir un certain nombre de sentiments au profit d'un sentiment commun. On devait aimer l'Ankar, le mouvement révolutionnaire et rien d'autre. Bref. Il a confié, là c'est vrai, cet enfant à La Rochelle, enfin c'est vrai dans la fiction, mais effectivement, donc il raconte lui, Xaprasit, il va expliquer, il est vieux, il va expliquer une autre histoire, il va expliquer qu'il a participé au Khmer Rouge à partir de 1975 aussi, il a accédé petit à petit à un haut rang de service de renseignement. Et puis quand les Vietnamiens ont envahi le Cambodge en 1979, il a suivi Pol Pot, et puis il s'en est détaché, mais pour des raisons plutôt financières et plutôt opportunistes. Et il a rejoint la cohorte des anciens Khmer Rouges qui participaient au nouveau gouvernement. En fait, il a rejoint l'actuel maître du Cambodge, qui s'appelle Hun Sen, qui lui-même est un ancien déserteur du mouvement Khmer Rouge en 1977. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a quasiment que d'anciens Khmer Rouges au Cambodge. Quand on parle de procès des Khmer Rouges, non, c'est le procès fait par des Khmer Rouges à d'anciens Khmer Rouges. Voilà. Alors, qui étaient restés, eux, fidèle, ou du moins juste pendant un certain temps, à Pol Pot, et en tout cas fidèle à leur idée révolutionnaire. Mais enfin, beaucoup d'anciens Khmer Rouges ont vécu au Cambodge en ayant quitté Pol Pot, et il a fallu les années 2000 pour qu'on les arrête. Sinon, ils participaient même à la politique du Cambodge des années 90. Il n'y avait pas d'arrestation à ce moment-là. Et donc voilà, ce Xaprasit va effectivement déniaiser Jean Douchy et il va lui faire prendre conscience que l'histoire dépend de qui la raconte, de comment on la raconte. Et là, on rentre dans quelque chose pour moi qui est très propre, le propre de la fiction, effectivement, c'est l'art de raconter des histoires. La dernière partie s'appelle « Ces histoires-là ». J'ai employé le mot « historiophile » au début. Mais je crois qu'en fait, et ça c'est très important, on est dans une situation comparable, en tout cas les auteurs, les romanciers, les romancières sont dans une situation comparable à ce que pouvaient être les cinéastes dans les années 60-70. C'est-à-dire les années 60-70, il y avait une question récurrente, c'était quelles sont nos images, quel est le sens de nos images, quel est l'avenir de nos images, que sont nos images? Parce qu'ils étaient confrontés à l'image publicitaire, à l'image télévisuelle, à ce régime spéculaire de masse et au fait même du médium cinéma. Et donc se posait la question de d'où la cinéphilie, c'est-à-dire la boulimie des images. C'est pas simplement l'amour du cinéma, c'était cette espèce de boulimie d'images et d'analyse des images et de mise en procès de l'image. Je pense que nous, on est dans une situation identique vis-à-vis de nos histoires et de nos récits. Qu'est-ce qu'une histoire? Que sont nos histoires? Que sont nos récits? Où s'arrête une histoire? Où commence-t-elle vraiment? Est-ce que vraiment il y a un début et une fin? Est-ce qu'il n'y a pas toujours un début qui précède le début et qui justifie le début? Et c'est là où la littérature a un rôle. Enfin, c'est pas qu'elle a un rôle, c'est même pas un rôle. C'est que c'est là où l'art littéraire a une justification que ne possède aucun autre, ni aucune science humaine, aucune. C'est que véritablement, on peut interroger cette histoire-là, mais sans passer par ce qui était le propre des années 60, c'est-à-dire la déconstruction. Moi, je dirais plutôt qu'on est dans un virage narratif. On est vraiment dans l'interrogation sur ce qu'est une histoire. Et ça passe pas forcément par la déconstruction des personnages, etc. Ça passe au contraire par la création de personnages qui s'insèrent dans des faits. Et on retrouve là une vieille notion qui s'appelle le vraisemblable. C'est-à-dire que Xaprasit, et ça je le sais, il est vraisemblable. C'est un personnage totalement inventé, mais il est vraisemblable parce qu'il correspond à des histoires connues. Il y a eu effectivement typiquement le président du Cambodge, Hun Sen. Il y a des histoires comme ça. Et donc c'est ça, moi, qui m'a véritablement intéressé et qui, et qui va marquer mes prochains livres, c'est qu'est-ce que l'on fait de nos histoires, que sont nos récits, justement toutes ces histoires de colonies dans un monde postcolonial, qu'est-ce qu'on veut créer maintenant, est-ce qu'on veut créer, on peut en rester à l'idée d'une vendetta permanente, Roméo et Juliette, l'Orient et l'Occident, les deux familles qui s'affronteront toujours, qui ne se pardonneront jamais, parce qu'il y aura toujours un événement qui antécède, terrible, et c'est vrai, les événements étaient terribles. Ou alors on peut essayer d'imaginer quelque chose de différent. J'aime pas le mot métis et le mot melting pot parce que c'est un mot qui marque les années 80 et je vomis les années 80 dans lesquelles j'ai grandi et dans lesquelles on nous a enfermés tous dans une vision infantilisante de l'autre, cette espèce d'altérité obscène en fait qui n'existait pas. L'altérité, c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de complexe. Mais c'est vrai que la mixité amoureuse, la mixité, eh bien, ça change totalement les choses. Parce que quand on a deux continents qui irriguent son histoire personnelle, il est très difficile de faire un choix. C'est pareil, j'ai parlé d'art colonial. Aujourd'hui, l'art colonial est à nouveau c'est même pas l'œil du cyclone, mais enfin, en tout cas, il y a des publications, d'ailleurs très belles, d'ailleurs, un livre de Pascal Blanchard. Très particulier ce livre, sexe et colonie, mais qui est très particulier parce que c'est un livre iconoclaste. Les images sont sublimes, le texte est contre les images qu'il présente. Et donc c'est un texte qui, à mon sens, enfin c'est un livre qui est symptomatique parce que le texte est juste absurde et les images sont magnifiques. Et à aucun moment on essaie d'analyser que les choses étaient plus complexes. Il ne s'agissait pas d'asservir quelqu'un dans une représentation. Il s'agissait simplement de faire, de photographier ou de peindre. Alors effectivement, certaines images assujettissaient, créaient des clichés, mais d'autres images, pas du tout. Et donc c'est là où il faut bien comprendre ce qui se passait et que ça échappe complètement à la politique pour entrer dans un rapport esthétique. Et c'est là, et j'ai du mal avec cette ère actuelle, cette époque sociologisante. La sociologie a remplacé la psychanalyse et en littérature. Et j'ai du mal avec les sciences humaines, j'ai du mal avec les idéologisations qu'on est en train de faire. J'ai du mal avec ces intellectuels qui donnent des leçons de morale aux artistes. Et j'ai du mal avec cette vision d'Edward Said sur l'orientalisme comme quasiment crime culturel vis-à-vis des orientaux. C'est absurde. Ce que j'ai découvert, en tout cas dans ces histoires-là, c'est que de l'autre côté, c'était la même histoire. C'était des gens fascinés par l'Occident. Les Khmers étaient fascinés par l'Occident, étaient fascinés par la Révolution française, étaient fascinés par le marxisme, parce que c'était quelque chose d'étranger à leur culture, parce que c'était quelque chose qui était transgressif, parce que c'était quelque chose qui les sortait d'eux-mêmes, de la même façon que nous étions fascinés par l'Inde, nous étions fascinés par le bouddhisme, nous étions fascinés par les déesses et les dieux, parce que ça nous sortait de nous-mêmes. Et ça, c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est cette ronde, ce cycle, cette fascination réciproque, qui est beaucoup plus riche que simplement « Ah non, c'est pas bien de représenter l'autre parce que franchement, on l'enferme dans une image. » Non, on l'enferme pas. Au contraire, c'est une image parmi des centaines d'images ou des millions d'images possibles. Et tant qu'on se fait des images de l'autre, eh bien justement, l'autre existe et l'autre n'est pas simplement l'autre. C'est une affaire de rencontre. Et c'est pas simplement une affaire de rencontre. C'est là où ça devient plus riche que simplement l'idéologie bête et méchante. C'est une rencontre qui aboutit à quelque chose de nouveau. C'est véritablement une sorte de coup de foudre. Et c'est une espèce de... Ça nous montre que l'existence n'est pas cette existence un peu laïcarde, un peu positiviste, un peu bornée à des choses comme ça, très terre à terre. C'est plein d'imaginaire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est plein de fiction. Mais la fiction, c'est la vie, c'est ce qui permet justement de réunir des choses qui sont séparées. Toutes ces histoires-là dans les jungles rouges, j'ai dit qu'il y en avait des centaines d'autres et que ça pouvait faire 1500 pages dans un bouquin qui s'appelle Indochina. Mais la fiction, c'est le montage qui va permettre à ces histoires d'être reliées. C'est les symétries qu'on va pouvoir trouver entre les Khmers à Paris et les Français au Cambodge. C'est les rapports amoureux. C'est imaginer un personnage vraisemblable, un fils d'un homme qui a réellement existé, Xa, mais qui n'existe qu'en quelques lignes dans la biographie des Malraux, et d'imaginer un fils qui lui-même a une fille et qui relie toutes ces périodes. Ça, c'est la fiction. Et ça, avec ça, on crée quelque chose que aucune autre discipline ne peut créer.
tu as le mot qui est sans doute peut-être ton maître mot pour ce troisième roman, et c'était déjà le cas pour tes deux précédents, notamment je pense à La Fleur du Capital, ce très 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 grand livre, et également à L'Opium du Ciel, Les Jungles Rouges étant ton troisième livre, Jean-Noël. S'extirper de l'idéologie, j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui pourrait le mieux décrire ton travail fictionnel, parce que c'est un travail fictionnel, parce que oui, tu veux te retirer de cette sociologie littéraire, effectivement. Et alors, on va aborder le titre, Les Jungles Rouges, parce que rien que par le titre, c'est là où on va comprendre que ce qui s'est passé avec les Khmers Rouges n'est pas forcément ce que nous, Occidentaux, nous, Européens, et tu parles dans ce livre aussi de la manière dont a eu lieu le procès des Khmers Rouges et pourquoi il a eu lieu aussi tard. C'était un procès d'Occidentaux, en fait. Et ça nous... C'est pas que ça renouvelle, c'est que ça transforme notre vision, ça transforme notre pensée, et que pour transformer notre pensée, il faut s'extraire obligatoirement de l'idéologie. Et vu que tu t'es extrait de l'idéologie, et donc aussi de cette sociologie littéraire, eh bien tu peux avoir la liberté la plus grande en tant que fictionneur. J'aurais envie de t'appeler fictionnaire, parce que je pense que c'est ce type de travail de la plus grande liberté qui permet aussi la plus grande ambition, parce que justement il n'y a pas d'idéologie, parce qu'il n'y a pas une thèse qui va être à défendre. Et la manière dont tu parles de ce livre, Race et colonie, effectivement, oui, le texte et l'image, c'est Sexe et colonie, c'est l'image qui est belle et qui fascine, en fait. Et le texte essaye de faire en sorte de nous défasciner de cette image-là, mais comme tu l'as bien décrit, on est plutôt encore fasciné par l'image plutôt que par le texte qui va nous défasciner. Alors je vais te lire longuement, pour qu'on essaie de comprendre pourquoi ce titre des Jungles Rouges et pour qu'on soit aussi dans cette jungle. Choisir la jungle contre la ville impliquait d'assumer une décision radicale. Tous la pressentaient comme une épreuve bouleversante, après quoi rien ne serait pareil. La ville lumière, donc c'est Paris, étrangement sur ce point, fonctionnait comme l'antichambre de la nature la plus sauvage, la plus formatrice de leur pays lointain. Prasit exposait ça parfaitement, avec une dramaturgie douce, évoquant ces paysages où la densité végétale intense et noire abritait une fièvre plus terrible que celle du paludisme. Une possession. Une faune adaptée aux hallucinations, ces milliards de pattes minuscules portant des carapaces minérales versicolores ou velues, parfois ailées mais toujours venimeuses, creusant des labyrinthes souterrains ou tissant des toiles à la mesure du réseau floral proliférant indéfiniment, si on le laissait faire. Tiges, lianes, branches, troncs, racines, brindilles, cordes, feuilles petites ou monstrueuses, langues verdâtres sortant de massifs éruptifs pour retomber inertes et aux aguets, spécimens dont les botanistes blancs dressaient l'inventaire obsédant et maladif dans des herbiers, des musées, des vitrines et des flacons estampillés à l'infini de leur administration, comme si ces jungles infectaient leurs observateurs pour les transformer en éléments de leur territoire. Il y a plusieurs passages comme ça où tu expliques c'est quoi la jungle. Et là, on comprend, ou on peut imaginer comprendre, qu'il s'est joué autre chose et que c'était plutôt un appel à la jungle, un retour à la jungle pour ces personnes-là, pour ces Khmers.
Alors, c'est vrai que dans le livre, la jungle, elle, j'ai envie de dire, elle a plusieurs sens et plusieurs dimensions. La première, c'est effectivement que dans la culture khmère, souvent, l'opposition se fait entre les villes et les campagnes, en fait. Les campagnes sont à la lisière des jungles, mais les habitants, aussi bien des villes et des campagnes, craignent les jungles, parce que les jungles, c'est le lieu habité par les esprits, c'est un lieu habité par des forces ancestrales, par ce qu'on appellerait des forces primitives, des forces essentielles en tout cas. Et quand on rentre dans la jungle et qu'on se réfugie dans la jungle, parce que ça peut être aussi un refuge, on est confronté à cette forme-là. Et le fait est que les Khmers Rouges, hein, en tout cas Beaucoup étaient des citadins, beaucoup avaient étudié à Paris. Et quand ils sont faits, quand ils ont fui dans les années 60, vers le milieu des années 60, Phnom Penh et les villes, pour retrouver les maquis, qui étaient dans les jungles, essentiellement au nord-ouest, c'est-à-dire à la frontière avec le Vietnam, parce que les Vietnamiens étaient les leaders de la révolution anticoloniale, plus que les Cambodgiens, donc ils se sont retrouvés là. Ils ont été confrontés à cette peur ancestrale, à ce retour des esprits, ce refoulé des esprits, etc. Ce sont des croyances très belles et très puissantes. Hein. Et ils sont tombés sur, des populations que les Khmers connaissaient mal, qui sont les populations dites tribales, qui sont entre le Laos, le Cambodge, le Vietnam, et qui sont des populations considérées par eux comme souvent très farouches, très mystérieuses, ayant des croyances qui sont bien plus anciennes que les croyances, qui sont en fait les croyances premières, qui sont les croyances bien plus anciennes que celles de l'Inde, animistes, très forte présence de la déesse terre, la puissance maternelle de la déesse, etc., certaines cruautés, enfin exactement l'image que nous-mêmes pouvons avoir que les blancs pouvaient avoir de populations tribales quand ils tombaient comme ça dans des îles, etc. Populations extrêmement complexes, mais ils vont être fascinés par ces populations parce que elles ne connaissent pas le capitalisme, elles ne connaissent pas la possession de la terre, du moins il leur semble, pas d'argent, une vie très simple. Et donc ils vont s'en faire une interprétation totalement, un peu comme Rousseau, hein, et c'est pas pour rien qu'ils étaient lecteurs de Rousseau, ils vont s'en faire une interprétation factice, mais là pour le coup dans un sens extrêmement réducteur, et ils vont considérer qu'il faut partir de là. Et c'est là qu'ils vont élaborer la notion de peuple nouveau et de peuple ancien. Le peuple ancien, c'est ce peuple des forêts. Le peuple nouveau, c'est le peuple des villes. Et donc quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont vider les villes, et ils vont hiérarchiser la population. Le peuple ancien, le premier des peuples, c'est ce peuple des forêts. Et puis c'est le peuple des campagnes aussi quand même. Si possible, analphabète. Et la population des villes, c'est ce qu'ils appellent le peuple nouveau. Et le peuple nouveau, il faut le rééduquer dans le sens du peuple ancien. Et donc, ils vont vider les villes, et ils vont les mettre dans des rizières, et ils vont les astreindre aux travaux forcés, à la malnutrition, pour en faire des hommes nouveaux, c'est-à-dire des hommes anciens. Et c'est là où on voit que c'est pas du tout le marxisme tel que nous on l'entend, que c'est déjà quelque chose d'un peu différent. Bon, c'est matiné de marxisme hein, quand même, parce qu'il y a quand même cette idée de camaraderie universelle, mais enfin c'est totalement différent du marxisme à l'occidental. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a une forte empreinte nationaliste dont on parlait au début, c'est-à-dire que petit à petit, ces Khmers rouges qui sont dans l'orbite des Vietnamiens vont retrouver cette haine naturelle qu'ils ont. Pol Pot était nourri dans l'enfance de récits anti-vietnamiens, et il va retrouver ça, et les autres avec lui. Et le principal ennemi, c'est même pas les Américains, c'est même pas les Blancs, c'est une couche superficielle. À la rigueur, les Français sont plutôt sympathiques, une fois qu'on les a virés du pays. Mais l'ennemi réel, c'est ces Vietnamiens qui veulent annexer le Cambodge, en fait. Dans leur idée, le Vietnam veut de toute façon toujours annexer le Cambodge. Et donc, ça va devenir l'ennemi numéro un. Et donc, il y a dans le récit, j'ai reconstitué assez minutieusement toutes ces relations entre les différents mouvements révolutionnaires qui nous échappent totalement. Hein. Et toute cette folie des acronymes d'ailleurs, Monacio, Funk, etc., qui sont des mouvements comme ça qui sont créés. Ça, c'est le propre de tous les mouvements révolutionnaires, c'est pas simplement propre à l'Asie du Sud-Est, mais en tout cas, voilà. Et donc, pour revenir à ta question des jungles, donc ça, c'était un des sens des jungles. Après les jungles, donc là, on rentre dans le domaine aussi après mythique de la jungle. La jungle, c'est aussi cette figure textuel, hein, c'est-à-dire véritablement un rapport, une sorte de métaphore de ce que peut être un texte, dans la multiplicité des sens qu'il peut donner, dans le rapport au style, aux phrases, longues, courtes, la prose, la poésie, etc. Et donc voilà, donc c'était le pourquoi des jungles rouges. Je l'ai appelé J'ai rouge, c'est pas simplement parce que c'est communiste, c'est aussi parce que, et pas simplement parce que le sang, mais parce que tout simplement, à Angkor, la terre est assez rouge, elle est argileuse, et donc il y a cette espèce de chromatisme assez beau entre ce vert très très fort et puis ce rouge de la terre, et donc voilà, c'est les jungles rouges pour ça aussi.
Mais avec forcément ce jeu, et je voudrais qu'on conclue peut-être là-dessus, pour moi en tout cas, mon regard qui est encore essentiellement occidental et qui cherche toujours à. Qui cherche l'ailleurs, mais beaucoup moins que toi tu as pu le faire. Je suis toujours en recherche d'hétérodoxie. Et néanmoins, lisant ton livre, Jean-Noël, je me suis dit, mais c'est peut-être stupéfiant à quel point nous, l'Occident, et en tout cas en l'Europe, nous avons communisé, peut-être mis en communisme ces Khmers rouges. On les a communismants, je ne sais pas comment qu'on pourrait appeler ça.
Mais ils étaient quand même communistes, hein.
Bien sûr, ils étaient communistes, mais peut-être que nous avons trop idéologisé
C'est pour ça que je suis là.
leur propos. Et les idéologisant à ce point, on a fait du régime Khmer Rouge peut-être le moment le plus affreux de cette histoire du communisme du XXe siècle, sans doute le moment paroxystique. Or, on peut imaginer autrement. C'est pas une thèse que tu défends du tout, mais on peut la voir en filigrane, c'est-à-dire que, bien entendu, ils sont communistes. Mais il s'est passé aussi une autre histoire.
Oui, mais ça, c'est la difficulté qu'on avait eue à l'époque. Alors moi, je sais, mais c'est qui a été révélé par un certain nombre de journalistes, d'historiens. En fait, c'est surtout les gens qui vivent sur place qui le savaient. C'est-à-dire que, en fait, on a complètement oublié que c'était du nationalisme avant tout. C'était des mouvements nationalistes. Pourquoi ils étaient staliniens? Parce que Staline avait défendu l'idée que le socialisme dans un seul pays n'était pas possible, notamment pour les pays colonisés, parce que il avait plutôt défendu l'idée du nationalisme dans un seul pays, pardon, et non pas du socialisme en tant que révolution mondiale tout de suite, parce qu'il considérait que les pays colonisés avaient besoin d'une phase nationale pour retrouver une sorte de fierté. Pour les colonisés, c'était juste une lecture fondamentale. La littérature stalinienne à ce niveau-là est supérieure à la littérature trotskiste. C'est plus réaliste et c'est assez justifié. C'est vrai que quand un pays a quand même malgré tout des bases culturelles. Et donc, quand cette culture est humiliée et qu'une nation est foulée au pied d'un envahisseur, eh bien, il faut une phase d'un retour à une sorte de fierté. Donc, c'était des mouvements extrêmement nationalistes. Et ça, on le percevait moins parce que, se revendiquant du communisme, ils rejoignaient donc la Grande Internationale communiste. Et donc, c'est vrai que les intellectuels européens, notamment, ne voyaient que ça à l'époque. Et ne voyait pas toute la phase, ou en tout cas quand il le voyait, eh ben, il trouvait ça que c'était de toute façon c'était provisoire et que c'était pas grave. Or c'était pas provisoire, c'était bien plus important que le communisme. Mais je me souviens d'un passage de Apocalypse Now qui est quand même de 79, où dans la plantation française, l'officier français dit peut-être haïssent-ils plus les Vietnamiens, peut-être haïssent-ils plus les Chinois qu'ils haïssent les Américains. Et c'est vrai, c'était vrai. Donc déjà, à l'époque, on savait plus ou moins que c'était des révolutions nationalistes. Alors pour reprendre ton propos sur je crois que c'est très difficile de se décentrer. En fait, c'est très compliqué d'imaginer ce que quelqu'un ailleurs pense, en fait. C'est une chose très compliquée. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est véritablement au retour de blocs de civilisations qui avaient complètement disparu, effectivement, dans une seule vision du monde et un seul récit, qui serait ce récit occidental d'une grande démocratie universelle, etc. Mais c'est lié à des valeurs d'une histoire qui n'est pas l'histoire de tous et de toutes. C'est ça qui est très compliqué à comprendre. Mais moi, c'est vrai que c'est ce qui me marquait lors de mes séjours là-bas. C'est-à-dire qu'à la fois, ça me posait des questions, ça remettait en cause, ça me montrait déjà, je découvrais que j'étais blanc, bien plus qu'en banlieue parisienne. Ça m'obligeait à être ce que j'étais, c'est-à-dire à ne pas l'occulter, à arrêter avec le côté un peu bisounours de certaines idéologies internationalistes, etc. C'est-à-dire que malgré tout, je dépendais d'un pays, je dépendais d'une histoire, j'avais un passeport, j'avais, tu vois. Donc je pouvais pas cracher simplement sur la France, etc. C'était plus compliqué que ça. Et en même temps, je découvrais véritablement, là pour le coup, une autre façon de penser, une autre façon de comprendre le monde. Le fait est que c'était peut-être plus facile pour moi parce que je venais d'une zone blanche socialement, c'est-à-dire que de parents ayant fait une migration italienne du côté de mon père et une mère qui vivait dans ville, mais dans une relative... Pas pauvreté, mais enfin, je veux dire, ma mère, elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans un 14 mètres carrés à Troyes. Mon père, voilà, il était le fils d'un petit pêcheur, d'une mère qui vendait le poisson. Et on n'était ni de la classe ouvrière, ni de la classe grande bourgeoise, ni de la classe... On était dans cette espèce de lumpen prolétariat dont parle Marx, c'est-à-dire ces gens un peu déclassés ou non classés ou... où on se retrouve plusieurs personnes très liées aux villes d'ailleurs, etc., fait que j'avais pas une mémoire familiale et un attachement très fort à un certain nombre de choses. Et donc j'étais d'autant plus poreux à tout, en fait, et d'autant plus poreux à écouter ces autres visions du monde. Et donc voilà, sans pour autant renoncer à ma propre vision du monde, à ma propre histoire. Après tout, je suis un occidental moi-même. Et donc c'est cette elle n'est pas finie, ce rapport-là n'est pas fini, c'est pas clos pour moi. Mais disons que ça a structuré ma façon d'écrire, c'est-à-dire de ne pas dépendre, de comprendre que l'espace du roman n'est pas un espace, c'est un espace où les idées peuvent s'affronter, les idéologies peuvent s'affronter, mais où le choix ne doit pas être fait. Je crois véritablement qu'écrire de la fiction, c'est ne pas choisir, mais c'est tout accepter. C'est véritablement donner donner le maximum de paroles à toutes et à tous sans faire de choix, sans juger. C'est un espace, c'est pas un espace juridique, l'espace du roman. Et c'est ce que l'époque est très juridique aujourd'hui. Les gens jugent beaucoup. La fiction n'est pas une écriture autoritaire. C'est une écriture violente, sexuelle, douce, tout ce qu'on veut, en fait, toute la gamme des sensations, des sentiments, de tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas une écriture autoritaire. L'essai est une écriture autoritaire, de plus en plus. Et donc, dans le champ littéraire, effectivement, la fiction a cette force-là. C'est une vraie force. Et c'est ce qui fait que elle est aujourd'hui problématique. C'est-à-dire que moins une fiction juge, plus on ne sait plus la classer et plus, je pense, le milieu littéraire est suspicieux à son égard. Parce que le milieu littéraire, souvent, est très lui-même poreux aux idéologies, adore l'idéologisation parce que ça va plus vite, c'est plus simple, etc. Et donc ce retour de la littérature engagée où j'entends un certain nombre d'auteurs dire... c'était déjà dans les années 50, là, pour le coup, et on le voit, parce qu'il y a des figures de la littérature, de la grande époque de la littérature engagée. Ça ne marche pas. Ça a contribué à dire n'importe quoi, notamment sur les Khmers rouges. Notamment sur les Khmers rouges. Ça a contribué à masquer les crimes des uns et des autres. Donc, ce retour est vraiment problématique pour la littérature. C'est quelque chose qui, pour moi, est très néfaste, et que je combats fortement.
Merci beaucoup, Jean-Noël.